franceinter.fr.
Il est 8h30. Voici donc la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
La conférence climat, évidemment, à la une des journaux ce matin, Hélène.
Good cop ou bad cop? Eh bien, telle est la question posée ce matin. Chacun de vos journaux fournit par avance les critères à retenir afin de juger le 11 décembre prochain de la réussite ou non de la COP21. Alors, avant d'en venir à ces critères, quelques éléments de pédagogie pour ceux qui auraient raté le début. Pédagogie avec l'interview du climatologue Hervé Le Treut dans Le Figaro. Parole d'un scientifique convaincu, mais qui se veut à l'écoute. Pas d'oucase, mais le souci de convaincre tout le monde, et notamment les climato-sceptiques, de la responsabilité des hommes sur le réchauffement climatique. Il n'y a pas de certitude absolue, reconnaît-il. Mais c'est comme un puzzle, explique-t-il. Au début, on place des petites pièces, mais elles ne représentent rien. Puis, au bout d'un moment, un visage apparaît. Eh bien, c'est un peu pareil pour le climat. Chacun des éléments de changement n'est pas une preuve en soi, mais au fil du temps, la cohérence de tous les effets désigne de manière très claire les activités humaines. Il faut respecter les personnes qui doutent, dit-il, mais il y a désormais des arguments. Pédagogie encore avec un abécédaire des mots de la COP dans Libération. Bingo, par exemple, a rien à voir avec le jeu. Bingo, c'est l'acronyme désignant les entreprises qui multiplient le lobbying et les événements parallèles en marge de la conférence. Entreprises qui sont d'ailleurs dans la ligne de mire de l'humanité qui s'agace de ce business vert. Bingo, donc, à ne pas confondre avec les Tungo, Engo, Ringo, Yungo, Hippo, c'est-à-dire les syndicats, les think tanks jeunes ou les peuples autochtones également présents au Bourget. Et oui, c'est tout un jargon de négocier pour le climat, mais cela dénote surtout la mobilisation tous azimuts, politique et citoyenne. Alors, au final, good cop ou bad cop? L'opinion nous détaille les 7 articles capitaux qu'il faudra forcément retrouver dans le texte final. Évidemment, les 2 degrés à ne pas dépasser, les clauses de revoyure ou encore les avancées sur un prix du carbone. L'opinion qui estime que mieux vaut crier victoire maintenant, car la COP21 va probablement accoucher d'une souris verte. Imaginez en effet la réunion de 195 copropriétaires ou celui qui a un placard à balai en sous-sol à une voix, comme celui qui possède un triplex au dernier étage, souligne un expert, histoire qu'on comprenne bien les difficultés inhérentes aux négociations onusiennes. Presse dubitative donc à l'orée des discussions, COP ou flop, titre Libération. Attention, il y va de la crédibilité des politiques, alerte Laurent Geoffrin. La presse officielle chinoise, le China Daily, promet en tout cas que le président chinois arrive à Paris avec l'intention de galvaniser la conférence pour parvenir à un accord historique, équilibré et juste. À la une du site Huffington Post ce matin, en tout cas le dessin le plus simple à ressortir à la fin pour juger, sous le titre « L'arbre à palabre », chaque étape est détaillée. Il y a un accord? Oui ou non? Signé par chaque pays? Contraignant? Le fonds vert est financé? Oui ou non à chaque fois? Et selon les réponses, eh bien on va d'un fiasco humiliant à un miracle inouï. Rendez-vous le 11.
Quelques à côté de cette COP21 également dans la presse ce matin.
Les chefs cuisiniers français sur la brèche pour nourrir les 150 chefs d'État et de gouvernement ce midi au Bourget. La réputation de la gastronomie française joue gros, nous raconte aujourd'hui en France le Parisien. Pour être en phase avec le thème du jour, Marc Vera servira son reblochon blanc avec de la mire odorante, de la mousse, du lichen et une salade sauvage aux arômes des sous-bois. Si c'est pas à 100% COP21 ça. Au-delà du menu, le plan table a en tout cas sûrement représenté un casse-tête, parmi d'autres évidemment, pour votre invité Laurent Fabius. Ils seront 14 à sa table autour de François Hollande. Obama, Merkel, Ban Ki-moon, Xi Jinping, Poutine et des représentants des autres continents. Avec quelques impératifs diplomatiques, pas question évidemment de placer le Premier ministre israélien à côté du leader iranien. Pas plus que l'Ukrainien ne côtoiera le Russe. La Croix nous apprend par ailleurs que le gobi sera distribué auprès de 40 000 participants de cette conférence climat. Alors, qu'est-ce que le gobi? Ça n'a rien à voir avec le bingo. Le gobi, c'est une bouteille rechargeable, 100% française et entièrement éco-conçue. L'idée, c'est évidemment d'économiser des centaines de milliers de gobelets de bouteilles plastiques pendant la conférence. Enfin, la dessinatrice Coco s'amuse dans l'humanité des désagréments pour les franciliens de cette réunion inédite. Proscrire la voiture et éviter les transports? Voyons les choses du beau côté, s'exclame un homme épanoui au lit avec sa femme, qui a donc trouvé le moyen de passer la journée.
Élections régionales, premier tour dimanche et deux quotidiens qui s'engagent.
Nord Éclair et La Voix du Nord qui s'engagent clairement contre le Front National, donné vainqueur par les sondages dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La région a-t-elle vraiment besoin du FN, s'interroge le premier. Pourquoi une victoire du FN nous inquiète, titre La Voix du Nord en une, avec deux pleines pages pour justifier ce parti pris. Parce que nous ne portons pas les mêmes valeurs, parce que le FN se contredit, parce que le FN menace la solidarité nordiste, détaille le quotidien. Une large majorité d'habitants de notre région pourraient se réveiller le lundi 14 avec une présidente Front National sans l'avoir voulu, s'inquiète Jean-Michel Bretonnier. Le FN n'est pas la solution, mais il apparaît pourtant aux yeux de beaucoup d'électeurs comme leur dernière chance, reconnaît-il. S'installe cette fausse logique qu'il réussirait là où les autres ont failli. Or, non, tout n'a pas échoué depuis 30 ans et le pire est toujours possible, met-il en garde. Engagement clair donc pour les deux gros titres nordistes qu'on ne retrouve pas pour l'instant ailleurs dans la presse régionale.
On termine, Hélène, par deux informations.
L'image d'abord que vous ne verrez pas, le chanteur pop Mika jouant d'un piano blanc sur rail. Il devait apparaître dans une vaste campagne de pub lancée par la SNCF pour promouvoir son train fétiche, le TGV. Mais le déraillement d'une rame d'essai en Alsace le 14 novembre dernier et le contexte évidemment des attentats du 13 ont poussé l'entreprise à différer sine die cette campagne promotionnelle selon les échos. Et puis... la revanche de Pino, pas Pino simple flic, mais Pino, l'homme d'affaires, grand amateur d'art contemporain. En 2004, découragé par la lenteur des procédures, il avait renoncé à son musée sur l'île Séguin. Il avait pris le chemin de Venise avec ses collections en ouvrant tour à tour le Palazzo Grassi et la Pointe de la Douane. Eh bien, La Croix nous annonce que François Pino s'est porté acquéreur d'un des sites cédés par la ville de Paris. On ne sait pas encore lequel, qu'importe, Pino serait prêt à s'offrir une vitrine parisienne en tout cas. Deux éléments pour expliquer ce retour de flamme. D'abord, une pincée de jalousie face à la réussite de la fondation Vuitton de son grand rival Bernard Arnault, PDG de LVMH. Et puis les attentats de Paris qui n'auraient fait que renforcer, paraît-il, la détermination de François Pino à revenir comme grand acteur culturel de la capitale.
Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse.